Nous sommes en Jean 19. Et donc, comme c'est souvent le cas avec les petites coupures de chapitres, ça ne colle pas forcément dans la logique des choses. Comme ici, c'est en plein milieu presque d'une conversation. C'est Jésus qui est devant le tribunal de Pilate, Pilate qui est le gouverneur de la Judée. Et Pilate, qui était selon les historiens, était un homme qui ne se souciait pas du tout des sensibilités des habitants du pays. Par exemple, normalement, on faisait attention, surtout à Jérusalem, de ne pas entrer avec les bannières de César, avec l'aigle romaine et tout ça. Alors, Pilate, non, lui, il entrait en Jérusalem, même avec tout ça, qui a provoqué justement une émeute. Il y avait une autre fois aussi où il a eu l'idée brillante de construire un aqueduc, donc pour qu'il y ait plus d'eau à Jérusalem. Bonne idée. Sauf, pour financer ce projet, il a pris l'argent du temple. Imaginez que ce n'était pas bien reçu. En arrivant à Jérusalem, il a préparé encore un coup plus mauvais que ce qu'il venait de faire. Il a envoyé des soldats en civil, hein, mais avec des armes cachées, pour que quand les gens commencent à se révolter, eux, ils sont dans la foule et qu'ils attaquent et massacrent les gens en plein milieu de la foule. Ce qu'ils ont fait. Alors, avec ces choses-là et d'autres choses aussi, la nouvelle est arrivée éventuellement à César Tibère, qui était, comme pas mal d'autres Césars, comme il était quelqu'un qui soupçonnait tout le monde, il avait raison de le faire, parce que l'histoire nous enseigne aussi que la poste de César était un poste assez périlleux. Et effectivement, les gens comme ça, ils ont souvent recours à la colère et aux résultats ou bien des solutions drastiques. Dramatique. Et donc pour Pilate, il y avait enfin cet ordre de César qui disait, bon, si ça arrive encore, tu risques de payer cher. Avec ceci en tête, il y a du temps qui s'est passé, il arrive à Jérusalem avec l'idée de ne plus avoir d'émeute, et puis le matin, justement, quand tout commence, il arrive et il voit les gens qu'il aimait le moins au monde, hein, certainement ces sacrificateurs, ces chefs religieux, qui étaient là avec encore une autre personne, pas du tout distinguée, une personne qui s'appelait le roi des Juifs. Et donc, c'est là où commence toute l'histoire, où on était. Pilate, qui arrive à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un roi politique, mais un roi spirituel, où il y avait quelque chose qui ne mettait pas en question l'autorité du César, il arrive à comprendre que même ce Jésus est innocent, il essaie une manœuvre politique, qui échoue également. Qui nous amène maintenant au verset 1 du chapitre 19. Alors, Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, ils s'approchaient de lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Si il est innocent, alors pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il voulait faire Pilate? D'un côté, il se montre comme quelqu'un qui veut relâcher le prisonnier. D'autre côté, ben, il le traite en tant que coupable. Ce qu'il essayait de faire était de susciter la compassion de la foule. Il savait qu'il y avait de la jalousie parmi les chefs religieux. Mais comme il y avait maintenant une foule qui s'amasse autour, et que c'était évidemment quelqu'un de bien, d'innocent, donc il espérait, par la voie de la cruauté romaine, justement, que les gens puissent voir Jésus battu et qu'ils puissent revenir à eux-mêmes en disant c'est assez, c'est stupide cette idée, je ne sais pas pourquoi on m'a fait ça. C'était ça ce qu'ils voulaient faire. Normalement, c'est une réaction normale. Même le dégoût par rapport à Rome, bon, ça m'était égal à Pilate. Il n'était pas là pour être aimé, forcément, enfin, si un petit peu, mais. Donc voilà ce qu'il voulait faire. Et donc on peut aussi poser la question, mais quand même, pourquoi est-ce que ça est arrivé à Jésus? Bon là, si on a lu Ésaïe 53, on comprend, il faut qu'il soit crucifié. Mais pourquoi tout ça en plus? À quoi ça sert? Il est intéressant que, en ce qui concerne la flagellation, et la flagellation était quand même un acte assez barbare. Les Romains, paraît-il, ont perfectionné l'art de flagellation. Ils ont fait en sorte que c'est tellement intense avec leur truc et leurs instruments de mort et de torture que les gens mouraient parfois même juste par la flagellation. C'était fait pour que on perd le plus de sang possible, qu'on soit le plus déhumanisé possible, pour que les gens soient mis juste au bord de la mort, et puis qu'ils conservent juste suffisamment de vie en eux pour que, ben, ils soient encore plus maltraités. Pour répondre à pourquoi la flagellation, je fais appel à Pierre, l'apôtre Pierre, qui, en fait, a cité un verset en Ésaïe 53 qui parlait justement de ces maîtrisures. Il a dit, verset 24 de 1 Pierre 2, donc 1 Pierre 2, 24, disant, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les maîtrisures vous a guéri. » Alors ce que Pierre nous dit, c'est que il y a une guérison par rapport à ces maîtrisures. C'est-à-dire que ça faisait partie de ce que Dieu faisait en lui. Et donc il y a effectivement une guérison lorsque nous aurons nos corps ressuscités. Un corps qui n'aura plus de maladie, plus rien du tout. C'est la guérison totale finalement. Il y a aussi la possibilité de temps en temps où Dieu intervient spécialement pour toucher le malade, guérir des gens, et ce sont des choses qui nous viennent seulement par la croix. Et c'est par la croix et c'est par ce qu'il a souffert parce que nous ne le méritons pas. C'est la même chose avec la justification. Comment est-ce que Dieu peut nous déclarer justes, nous qui ne sommes pas justes, mais criminels vis-à-vis de sa loi? Tout a mis sur l'épaule de Jésus pour que Dieu, qui soit juste, qui condamne le péché, donc Jésus, et nous qui croyons en lui, ben, il nous justifie. De même, comment est-ce que Dieu peut nous montrer justement cette compassion si c'est par cette même voie aussi? Parce que Christ a payé quand même pour nous sa justice. Parce que d'où viennent les maladies? Si ce n'était par le péché. Et ça, c'est pourquoi, quand nous aurons notre corps de résurrection, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de péché en nous. Mais là, on est allé plus loin aussi de ce que Pierre a dit. Parce que Pierre n'a pas parlé de tout ça. Il parlait d'une guérison spirituelle. Il parlait du pardon des péchés. Et surtout de nos jours, c'est une chose que nous sous-estimons beaucoup. Le pardon des péchés est une véritable guérison. Parce que le péché nous rend malade spirituellement. Mortellement malade. Et donc, quand quelqu'un est né de nouveau en Christ, il y a une guérison spirituelle. Une guérison aussi émotionnelle qui se passe souvent. Et, pas mal de fois, une guérison même psychologique qui se fait aussi. Tout ça donc par la croix. C'est terrible que Jésus a dû subir toute une telle chose. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention à ce qui est dit en Ésaïe 52, verset 14. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle de fils d'Adam, de même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait été raconté et comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Et puis ça entre dans le discours d'Ésaïe 53. Plus que aucun autre homme, où il y avait même plus l'aspect d'un homme, Dieu qui voyait les choses. Et tout ça, les souffrances de Christ sont dures à digérer, dures à supporter, mais tout ça fait aussi partie de sa coupe de colère, de condamnation qu'il devait aussi boire le prix de nos péchés. Mais pourquoi la couronne? On se dit, mais la couronne, ben quand même, c'est la moquerie totale. Eh bien, en psaume 22, le psaume qui décrit parfaitement la crucifixion des siècles avant son invention, on a aussi des scènes de moquerie. Mais la couronne, alors une couronne d'épines, et je suis persuadé que ce n'était pas un hasard qu'ils ont choisi ça. Il aurait pu faire une couronne de n'importe quoi. Mais pourquoi des épines? Alors, là, je crois qu'il faut réfléchir d'où viennent les épines. Alors justement, d'où viennent les épines? Pourquoi il y a des épines? En Genèse 3, verset 8, quand il y avait la condamnation, excuse-moi, 3, 18, quand il y avait cette malédiction à cause du péché de l'homme, Dieu a maudit la terre. Et c'est à partir de ce moment où il y avait des chardons, des épines. Alors, l'image est frappante. Nous avons l'innocent roi de gloire qui s'est humilié pour devenir péché à notre place, qui porte la couronne de la malédiction. Et Pilate dit, voici l'homme, en espérant enfin d'arriver à quelque chose de raisonnable. Et lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, crucifie, crucifie. Et Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il entra dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu ?» Et Jésus ne lui donna pas une réponse. Alors pourquoi est-ce que ça a effrayé Pilate tellement? D'abord, il essaie quand même, et j'imagine il est choqué par cette manière de réagir. Il crucifie, crucifie, alors que déjà il est meurtri, disfiguré et tout, et puis les gens y volent encore plus. Dégoûté par ça, il dit, mais vous n'avez que terminer l'acte vous-même. Mais eux, ils ne veulent pas salir leurs mains, comme on a vu la semaine dernière, parce que c'était la Pâque. Et ils voulaient continuer. Ce sont aussi des chefs religieux. Il fallait qu'ils soient présents pour toutes les cérémonies. Ce n'est pas question pour eux de le faire. Ils renvoient la balle à Pilate. Mais ce qu'ils disent est la chose qui fait peur à Pilate. Ils disent, il s'est fait fils de Dieu. Alors rappelons ce qui s'est passé cette journée-là. Pilate qui était déjà frappé par cette paix intérieure de Jésus, cet homme qui ne répondait pas comme tout le monde. Et en plus, rappelons-nous de ce qui s'est passé dans l'évangile selon Matthieu, où sa femme est venue en secret en lui disant, n'ai rien à faire avec cet homme parce que j'ai beaucoup souffert ce soir-là en cauchemar à cause de lui. Alors il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui clochait. Et puis, maintenant, on parle d'un homme qui s'est fait fils de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un Romain? Pour un Romain qui est notamment superstitieux à cause de sa religion, la religion de Rome n'est pas une religion de relation avec ses dieux. La religion de Rome, c'est plutôt la superstition où, comme les Grecs, ils ont beaucoup de dieux. Et les dieux, en fait, n'interviennent pas dans les affaires humaines, sauf par cause de caprice ou par colère. Et donc, les dieux sont pour apaiser. Et ils ne sont pas forcément de son côté, ça peut arriver, mais en fait on fait des sacrifices et des cérémonies pour apaiser les dieux, pour qu'ils nous restent tranquilles tout simplement. Et donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, bon, la première chose qu'on fait si on est romain, un bon romain, on regarde en arrière pour voir si on a bien fait respecter tous les rites. Alors, on peut imaginer dans l'esprit d'un Pilate maintenant, qui, avec le témoignage de sa femme, avec cet homme qui est totalement différent que tous les autres, et maintenant, nous voyons que la raison réelle que ces gens lui envoient, c'est parce qu'il s'est fait un fils de Dieu, autrement dit, un fils des dieux. Alors là, il a très peur, parce que il vient de faire flageller et il vient de se moquer d'un fils des dieux. Alors, dans sa tête et dans sa religion, dans sa manière de voir le monde, il a fait la plus grande erreur de sa vie. Surtout quand on se rappelle de ce que Jésus a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, bien sûr, il a très peur, et ça c'est pourquoi maintenant, il se retire et commence à l'interroger. D'où viens-tu alors? Mais Jésus ne répond pas un mot parce que Jésus est tout ce qui est contraire à la superstition. Et il ne veut rien avoir avec ça. Il ne joue pas avec, il ne touche pas. Il lui a déjà dit la vérité. Pilate, qui n'a même pas écouté, qui a même posé cette question bête. Qu'est-ce que la vérité? Il n'a plus rien à lui dire. Alors Pilate dit, verset 10, à moi tu me parles. Notez à quel point la peur devient la colère. Comme c'est souvent le cas, des émotions qui sont très très fortes, ils paniquent maintenant. Et cette panique devient une véritable colère. Tu ne parles pas à moi, il dit. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te crucifier? Normalement. Ça doit faire plier Jésus s'il était un homme comme nous tous, c'est à ce moment-là qu'il se met à genoux et qu'il supplie de toute sa vie. C'est comme ça que ça marche. Mais encore une réponse de Jésus, totalement inattendue. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus, donc, il parle du Père qui a mis toutes ces choses en ordre et en œuvre. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. En parlant de ces sacrificateurs, en parlant aussi de Judas. Quelque part, c'est un soulagement dans le cœur de Pilate. Et dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Mais ça fait vraiment de n'importe quoi. Maintenant, il se met aux côtés de César, en l'appelant même l'ami, alors que ils ne sont pas l'ami de César. Loin de ça, César qui a joué d'eux et qui leur a enlevé justement tout leur pouvoir pour augmenter justement ses frontières. Notez à quel point l'incrédulité devient irraisonnable. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, il dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Donc maintenant, c'est la mise en scène pour qu'ils sachent, « Ok, c'est la dernière chance, là. Je suis sur le trône et... » C'est le moment. Ça va tomber, hein. Mais ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Voyez, ils comprennent même plus, enfin. Les sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Et quelle tristesse à ce moment-là. Nous n'avons d'autre roi que César. Ce n'était pas la vérité de ce qu'ils pensaient réellement. Mais par cette fausse alliance à César, en réalité, ils ont fait un blasphème. Parce que qui est le roi d'Israël? C'est Dieu, le roi d'Israël. César était un autre Dieu, ou se faisait Dieu. Alors en disant que nous avons un autre roi, et là, de la bouche des suprêmes sacrificateurs, c'était un blasphème. Exactement la même accusation qu'ils voulaient plaquer sur Jésus. Et nous voyons encore à quel point l'incrédulité aveugle les gens. Que si nous sommes prêts à rejeter la vérité, Dieu est tout prêt à nous laisser croire un mensonge. Et ça, c'est pourquoi en Hébreux 3 et 4, nous avons cette terrible mais sobre avertissement en ce qui concerne quand on entend la voix de l'Esprit. Verset 15 de chapitre 3, nous lisons « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui fut-il indigné 40 ans ?» durant sinon contre ceux qui péchèrent, et donc les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qui n'entrait pas dans son repos, et si ce n'est ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. C'est un avertissement. En endurcissant son cœur contre la vérité, on risque tout. On n'entrera jamais dans le repos que Dieu a promis, puisque on s'en prive nous-mêmes. exactement ce qui s'est passé pour ces hommes. Et encore plus dangereux, comme ils étaient les chefs, ils étaient en train de diriger toute la nation contre la volonté de Dieu et loin du repos qui pouvait avoir que, qui est ouvert à toute personne en Christ. Alors, ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Et Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec les deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Nous voyons la puissance justement de cette image. Jésus, qui porte le péché du monde, crucifié à droite et à sa gauche. Deux brigands. L'évangéliste Luc nous rappelle qu'il y avait un parmi eux qui s'est converti, l'autre non. Encore toute grâce à la croix. Il fallait que Jésus meure avant. Il a fait. Et Pilate fit aussi un écriteau qui plaça sur la croix. Il était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus était, il fut crucifié était près de la ville. Et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Enfin, Pilate s'affirme et il reste sur sa position. Alors pourquoi cet écriteau? Pourquoi? Enfin, après, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Alors pourquoi? Comme c'était dehors de la ville et c'était le premier jour de Pâques, jour de préparation, les gens arrivaient pour la Pâque. Et c'est comme c'était le matin, les gens arrivaient, ils montaient la colline de Jérusalem. Et avant d'entrer dans la ville, qu'est-ce qu'ils voyaient? Mais ils voyaient ces gens crucifiés avant le crâne. Et encore plus, cet écriteau, il portait sur le cou en marchant pour être crucifié, pour que tout le monde dans la ville voit pourquoi ils sont punis. Et là, une fois crucifié, c'est mis sur la croix pour que tout le monde le voit. Et donc tout le monde qui passe, il voit la première personne. Brigand, bien sûr. Brigand l'autre, mais roi des Juifs. Et en plus, c'est écrit en latin. Latin, c'est la langue de Rome, la langue administrative, la langue royale finalement, d'élite. Il y a aussi le grec. Il y avait beaucoup de gens dispersés dans les régions européennes et tout. Ils parlaient le grec. C'était leur langue maternelle. C'était aussi la langue de culture, la langue économique. Donc tous ces gens, même les marchands, qui ne sont pas forcément juifs, ils lisent le grec. Ils voient ça aussi. Et puis il y a l'hébreu, la langue religieuse, la langue du pays. Tout le monde pouvait savoir qu'ici est frappé le roi des Juifs. C'est ça sa crime. Sa crime était le sauveur de l'humanité, devenu péché pour nous. Et avec, même avec cet écriteau, avec l'alliance entre les Romains et la nation Israël pour crucifier Jésus, nous voyons que son titre s'élargit beaucoup, puisqu'il devient le roi des rois, finalement. Il est le roi de toute personne qui s'incline devant lui, sachant que tous genoux s'inclineront devant lui. Il est le roi des rois, crucifié ce jour-là. Et les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et s'en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule tissu depuis le haut jusqu'en bas. Quelqu'un a fait remarquer que c'est comme la tunique des prêtres, finalement, qui était aussi ce même genre. Jésus, qui mourait en tant que l'expiation de nos péchés. C'est-à-dire, l'expiation, la propitiatoire, c'est en fait la colère de Dieu a été apaisée parce que la justice a été faite par lui. Mais normalement, ça se fait par un sacrifice. Jésus est donc ce sacrifice. C'est fascinant que nous voyons ce petit détail. Mais ça va encore plus loin, ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que la sorte désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Maintenant, il y a tellement de détails. Jean se repose principalement sur des prophéties maintenant. Et quand on voit ces choses, parfois, c'est la seule raison d'être. Pourquoi il y avait cette humiliation encore, ce n'était pas assez. Dieu l'a prédit, tout simplement. Il est intéressant qu'il y a presque 30 prophéties juste concernant la croix. Il y en a 28, en fait. Et c'est frappant parce que il y avait un mathématicien qui a calculé le pourcentage, la possibilité que ça puisse arriver avec seulement 8 prophéties qui sont accomplies. Et le nombre est tellement en dehors de la raison. C'est la même chose que si on couvrait tout le territoire de métropole de la France, donc, avec des petites pièces de 5 francs, et vous mettez ça partout dans la métropole, jusqu'au niveau des genoux. Et puis, vous en preniez un, et vous mettiez une croix rouge, et puis vous le lancez quelque part dans la France. Alors, la probabilité qu'il y ait une personne qui accomplit seulement 8 prophéties, c'est la même que s'il y avait quelqu'un qui survole la France et qui, de sa première chance, il tire la bonne pièce de 5 francs. Et ça, c'est seulement 8. Là, avec ce seul événement, on a 28. Et ça, c'est pour que nous ne doutions jamais qu'il est le roi des rois, qu'il est celui qui était frappé pour nous, brisé pour nous, qui a pris toutes nos iniquités, afin que nous soyons sauvés, pour que nous ne doutions plus de ce salut. Pour que quand l'ennemi nous assaille avec ses condamnations, avec ses accusations et ses tentations, ou aussi quand nous nous égarons, que nous revenions toujours à la croix, où nous trouvons encore la mort à soi, mais la vie de résurrection en nous. Comme Pierre a dit, mort afin de vivre pour Dieu, comme on a vu tout à l'heure en 1 Pierre 2. Après de la croix, Jésus se tenait, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, donc Jean, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, c'est touchant. Penser que même en plein milieu de son agonie, il pense à sa mère. Ce que nous voyons chez Jésus, c'est un exemple d'un véritable homme, un véritable homme de Dieu, comme ça doit l'être. Jésus confie sa mère à Jean. Alors pourquoi Jean? Jean était jeune, nous savons. Aussi, Jean était le fils d'un entrepreneur réussi. Donc il avait les moyens. Ok, mais pourquoi Jean et pas Jacques? Ben Jacques était le premier martyr parmi les 12. Frappant comment Jésus a pris la bonne personne. Et ça explique pourquoi, après les premiers chapitres où nous voyons Jean un petit peu avec Pierre, que nous ne le voyons plus dans la scène. Alors qu'évidemment, il avait pas mal de choses à dire, pas mal de choses à donner, mais non, son ministère serait des années après que la majorité des autres apôtres soient exécutés. Et parfois, il peut avoir justement cette déception en disant, mais je sais que Dieu m'a appelé pour quelque chose et je vois pas pourquoi il y a cette attente et tout. Mais toute chose en son temps, Jean n'a pas vraiment fleuri dans son ministère que quand il était assez âgé, finalement. Il avait un autre travail à faire. Et encore pour revenir à Jésus, il faisait le rôle d'un homme de son époque. Il était le fils aîné. Le fils aîné s'occupe de ses parents. Joseph, certainement mort à cette époque. Donc c'est à Jésus de s'occuper de sa mère. Il a fait. Et il y a quelque chose de vraiment admirable dans ça. Parce que de nos jours, dans le monde, et j'espère que ce n'est pas le cas dans l'Église, mais nous voyons que les hommes ont oublié les rôles élémentaires de ce que Dieu les a donné. Comme il est dit en 1 Timothée 5, 8, si quelqu'un abandonne justement leur famille, ils sont comme pire qu'un incrédule s'il ne prend pas soin de ses siens. Et nous voyons que les hommes, de nos jours, tout est pour le plaisir, tout est pour eux, mais on a perdu complètement l'idée du sacrifice, l'idée de la famille, l'idée de la fidélité, surtout dans une société où on pense qu'un homme est bizarre s'il est marié et il ne trompe pas sa femme. Mais ça, c'est le monde à l'envers, ça. Si je dois même dire le mot tromper, ça montre qu'à quel point c'est faux. Et c'est important de ne pas adopter cette mentalité du monde, surtout dans l'Église, mais de toujours garder les standards bibliques et ne pas accepter ce que nous enseigne le monde. Parce que Jésus qui agit comme un fils plutôt qu'un mari, en ce qui concerne justement les relations conjugales, selon Éphésiens 5, nous réalisons que le couple, en fait, c'est en image de l'Église et Jésus. Chacun sa rôle, et c'est une chose donnée par Dieu comme témoignage dans le monde. Et nous voyons que même Jésus, dans ses dernières minutes physiques sur terre, n'a pas oublié ces choses. Mais il les a fait, il les a bien fait. Après cela, Jésus, qui savait déjà tout était achevé. Dis afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Et on fixait une tige d'hysope et d'une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Pourquoi ça accomplit l'écriture? Parce que c'est dit en psaume 69, verset 21. Encore, c'est tout simplement des prophéties qui sortent. Tout est déjà terminé. Quand il a eu pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête, il rendit son esprit. C'est important, il prend de ce vinaigre. Ce vinaigre n'est pas stupéfiant, mais c'était pour donner encore un peu plus de vie pour que la souffrance continue. La croix romaine est une chose horrible. En fait, on meurt pas seulement par le manque de sang, ni ses blessures, et c'était déjà beaucoup, mais on meurt par asphyxiation, parce que le corps se repose sur lui-même, les bras écartés au-dessus de la tête. C'est là toute la torture. Et donc, Jésus, qui a suffisamment d'air en lui pour demander de l'eau. Normalement, ça redonne un peu de force pour continuer la souffrance. Lui, par contre, il dit, c'est accompli et rendit son esprit. Il mourait avant son temps, physiquement parlant. Pourquoi? Il a dit pourquoi? Parce que c'est accompli. C'était le moment. Il a expié. Il a payé la dette. C'est ça ce que veut dire le monde qu'il employait en grec. C'est payé. C'est le même mot que on peut utiliser en français quand on écrit une ticket de caisse à la main. Et puis on met le tampon et on signe. C'est cette même idée-là. C'est payé. C'est fait. Et c'est à ce moment-là, quand il a bu complètement la coupe de la colère de Dieu, il savait que c'était le moment. Il rend son esprit. Encore, personne ne lui a ôté sa vie. Il a donné. Il a donné pour nous, pour notre salut. C'était le jour de préparation. Et pour ne pas laisser le corps en croix pendant le sabbat. Or, ce sabbat est un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Donc on brise les jambes quand ça devient trop tard. Parce que dans la loi, il ne fallait pas laisser les cadavres comme ça, parce que ça salissait la terre. Et Dieu dit encore, celui qui est pendu au bois est maudit. Donc comme c'était une fête. C'est ça aussi qui marque la cruauté romaine. Notez comment tout était préparé. S'il n'y avait pas Jésus, il y aurait quelqu'un d'autre. Il y aurait Barabbas crucifié. C'est-à-dire que tout était déjà préparé par les Romains le premier jour de la fête. C'est ce qu'ils voulaient pour que les gens apprennent en entrant dans la ville. Faites attention, voilà ce qui arrive aux ennemis de Rome. Et donc Pilate est d'accord, il avait déjà une longue journée, il va d'accord, briser les jambes, enlever ces gens de la croix. Le mal est déjà fait. Et donc, pour que ces autres brigands s'asphyxient, finalement, ils meurent. Le soldat vint donc et brisèrent les jambes du premier, puis l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, donc de ces gens qui parlent, et son témoignage est vrai, et lui, il sait qui dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi, cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Comme une offrande du péché doit se faire, il est exécuté en dehors de la ville. Là où les gens arrivent à la ville, ils ont regardé celui qu'ils ont percé en entrant dans la ville. Mais ce qu'ils n'ont pas peut-être compris, c'est que c'est lui en fait, l'agneau pascal. C'est lui qui enlève le péché. Quand il y avait cette eau et ce sang, plus tard on a fait des estimations médicales et on a compris que la seule possibilité qu'il puisse avoir une liquide avec de l'eau quand il perce justement son côté comme ça, c'est s'il y avait une crise cardiaque ou un cœur qui a été déchiré, il y avait une rupture. Pour le dire plus poétiquement, Jésus est mort d'un cœur brisé. Et ça colle, ça, c'est juste de dire, puisque c'est comme tellement la coupe fut grande, la coupe de colère, ça brisait sa cœur, son cœur. On se rappelle de ces mots qui commencent le psaume 22 qu'il a cité juste avant. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce qui est encore plus merveilleux dans ceci, de moyens plus mystiques, si vous voulez, c'est que si on revient vers ce qu'on a dit tout à l'heure sur le rôle des hommes et des femmes, on se rappelle dans le jardin d'Éden que du côté de l'homme, Dieu a pris une côte et il en a fait la femme. Encore, pour revenir à Éphésiens 5, l'homme qui est le représentant de Christ, la femme de l'Église, c'est une. Ce couple, donc, c'est une image de cette relation entre Christ et son Église. Le côté de l'homme pris de son côté pour que la femme soit créée. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas trop loin de dire. Là, il y avait tiré du côté de Jésus, le sang par lequel il lave justement son Église, d'où vient l'Église. Et quelle belle image justement à ceci, la symétrie parfaite de Dieu, Jésus et son Église, en l'aimant jusqu'au bout. De son côté, d'où vient le sang. Et après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, dans le jardin, un tombeau neuf, où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Alors, ces deux hommes se relèvent, enfin. Certes, pendant si longtemps, ils ont cédé à la tentation de la timidité, mais enfin, quand les choses deviennent dures, enfin, quand même tous les apôtres l'abandonnent, ces deux-là risquent leur vie, leur réputation, leur profession, tout, pour faire ce qu'ils ont fait. Joseph était un homme très riche. Notez-le bien, même pour Nicodème, d'avoir sous la main tellement des épices comme ça et tout ça prêt juste pour embaumer encore, ça représente beaucoup d'argent. Hein. Ça ne s'achète pas d'un coup comme ça. Il l'avait déjà. Et aussi d'avoir juste à côté dans un jardin un tombeau juste à lui. Notez bien, il est Joseph d'Arimathée, pas Joseph de Jérusalem. Normalement, il doit être enterré à Arimathée, qui est 12 kilomètres au nord de Jérusalem. Mais pour avoir suffisamment d'argent pour faire son propre tombeau à Jérusalem, ce n'est pas négligeable. C'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Et ces deux hommes, ils sortent. On termine avec ceci. Jésus-Christ est mort pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dont nous sommes tous partis. Nous sommes tous des pécheurs. Mais ce qui est tellement touchant avec Joseph et Nicodème, Jésus-Christ est mort pour les pécheurs tels que Joseph et Nicodème, des gens qui, dans le passé, ont failli, plein de défaillances humaines comme nous tous, mais réservés pour une œuvre spéciale que Dieu a préparée tout spécialement pour eux. Ils n'ont pas manqué, ça c'est la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu peut faire pour nous aussi, au moment voulu, pour que nous ne perdions pas courage, mais que nous continuons. Dieu n'est pas terminé avec nous, pas encore. Prions.